Cap à Cap, Jacques Lavergne, bonjour. Aujourd'hui, Cap à Cap avec Malika Borde-Boudelal. Bienvenue à toutes et à tous sur Esprit Occitanie. Je reçois ce jour une invitée aux compétences multiples et à l'emploi du temps apparemment bien rempli, une invitée qui œuvre dans des domaines que le grand public maîtrise peut-être mal, raison de plus pour qu'elle nous fasse partager son parcours et son expérience. Bonjour Malika Borde-Boudelal.
Bonjour à vous et bonjour tout le monde.
Alors vous avez
merci de votre invitation.
Ah, mais écoutez, c'est avec grand plaisir. Et puis, c'est un domaine que nous n'avions pas vraiment encore abordé dans mes émissions. Donc, je suis ravi d'en apprendre plus et peut-être d'en faire apprendre à nos auditeurs également. Alors, vous êtes dirigé vers des domaines un peu inusités. Aujourd'hui, la sociologie, l'ethnologie, l'anthropologie, la conservation de musées, toutes choses très techniques, très savantes. Comment ce choix vous est venu? Pourquoi vous êtes allé dans ces directions?
Alors, je suis allé dans ces directions en partie par hasard, parce qu'il y a plus de 40 ans, la complexité du choix pour les étudiants était la même. Il ne faut pas croire que ça date d'aujourd'hui. Je ne savais pas trop ce que je voulais faire, mais il y a une chose qui m'intéressait, c'était les gens. J'étais curieuse du fait social, j'étais quand même militante, avec un papa lui-même militant, CGT de la première heure après-guerre, et nous avions dans la famille une sorte de tradition d'engagement politique, et voire militant. Donc j'avais un peu approché les jeunesses communistes, etc. Et pour une jeune fille de mon âge, c'était dans les années 70, il y a eu 68, il y a eu un frère très engagé, etc. Donc je crois que c'est beaucoup venu d'un environnement d'engagement politique, ou tout au moins social, une sensibilité sociale, qui a fait que j'ai plongé dans la sociologie. En premier, c'est une discipline qui était peut-être plus connue qu'aujourd'hui, puisque le nom de Pierre Bourdieu et quelques autres circulaient davantage, en tout cas pas avec un effet médiatique, mais avec un effet scientifique. Et je crois que je suis rentrée à l'université d'Aix-en-Provence, d'ailleurs où j'ai fait ma première année, un peu dans ce contexte, je dirais, sociopolitique, en fait.
Vous auriez pu vous orienter directement vers la politique ou la fonction publique, comme beaucoup à l'époque.
La fonction publique, ça n'existait pas pour ma génération. Moi, je voulais en fait plutôt faire les beaux-arts, hein, pour tout vous dire. J'hésitais, mon père voulait que je fasse médecine, moi je voulais faire les beaux-arts, puisque je suivais déjà beaucoup de cours de dessin. J'ai oublié de parler de ce volet-là, qui lui m'a orienté après vers ma profession de conservateur, mais j'ai très tôt dessiné, été intéressée par l'art, tout simplement parce qu'ayant des parents, surtout ma mère, totalement illettrée, analphabète, ma mère n'est pas allée à l'école, elle était fille, je suis d'une lignée de femmes potières kabyles, donc maîtrisant à la fois les arts céramiques, mais aussi la symbolique du dessin, ma mère dessinait, voilà. Et je la faisais dessiner, j'adorais ça, et elle avait un regard artistique. Mes parents nous promenaient beaucoup, et donc on avait, je crois, très tôt découvert l'abbaye de Sénanque, hein, pour ne citer qu'un lieu que tout le monde connaît. On allait dans les musées, parce que mon papa, il avait des copains, mon père travaillait à la mairie d'Aix, il avait des copains qui étaient gardiens de musée, qui nous faisaient rentrer le dimanche à l'œil, voilà. Donc entre cet amour pour les arts, je vais dire, et surtout les arts céramiques, et un engagement social, j'ai négligé la médecine, puisque j'étais plutôt une scientifique, mais je ne vibrais pas pour ces disciplines, je préférais l'humain à plusieurs que rentrer dans le corps de l'humain, en gros. Voilà.
J'ai noté, en préparant l'émission, que vous aviez fait une licence, une maîtrise de sociologie, alors avec option mathématiques appliquées. Alors, ça m'a
Ah oui.
beaucoup surpris. Qu'est-ce que les mathématiques viennent faire dans la sociologie?
Eh bien, en sociologie, on a, je ne sais pas si vous avez vu ça, mais c'est rigolo, je n'y pense jamais alors que j'étais une matheuse. Voilà, j'avais deux frères qui étaient des grands matheux et qui m'ont beaucoup accompagnée dans mes études. Et il se trouve que quand on fait de la sociologie, on choisit des options. Moi, j'étais très intéressée par les statistiques et la logique. Ça venait aussi de mon goût pour la philosophie. Et donc, c'était le début de l'informatique. Donc, j'allais à l'université Paul Sabatier à Toulouse. On avait des cours d'informatique, de logique. Et j'ai fait des mathématiques jusqu'en maîtrise. C'est rigolo. Je ne sais pas si ça existe toujours, mais ça m'a toujours servi beaucoup, notamment pour les statistiques. Voilà. Donc, j'ai effectivement une maîtrise en mathématiques, sociologie mathématique.
Je ne savais pas que c'était ces deux techniques pouvaient se
C'est
marier,
drôle, hein.
mais pourquoi pas. Alors après, vous êtes allé à Paris faire l'école des hautes études en sciences sociales, dont vous êtes sorti avec un doctorat en ethnologie. Une
Non,
autre, non?
je ne l'ai pas passé.
Oh, mais
Je
pas
ne l'ai
grave,
pas triché.
vous y étiez presque. Moi aussi, j'ai
J'étais
fait un
presque, oui.
doctorat en droit, je n'ai pas passé, mais c'est pas grave, on a quand même
Non,
suivi.
ce n'est pas grave.
Alors pourquoi l'ethnologie, sociologie, ethnologie, ce sont quand même des techniques et des sciences voisines, mais totalement différentes?
Oui, et votre question est bonne, enfin, elle me plaît bien
Merci.
parce que c'est ce qui explique aussi ce parcours un peu étrange parce que vous avez cité les mathématiques, donc une discipline avec une application très cartésienne, très statistique, très carrée, et qui m'a plu du tout, qui ne m'a plus du tout plu, et arrivé en maîtrise, oui, c'est en maîtrise, parce qu'après après le DEA, j'ai bifurqué, et j'ai rencontré par un enseignant à qui je dois rendre hommage, qui est décédé aujourd'hui, qui s'appelait Claude Rival, ce que tout le monde, beaucoup de gens ont connu, qui m'a mis un pied dans l'ethnologie, en me rapprochant plus, je dirais, de la science humaine, où là, je sortais des statistiques pour rentrer dans la rencontre des gens, en fait. Je ne dis pas que je ne les ai pas rencontrés avant. Mais, et surtout, c'est par les années que je passerai après autour du thème du canal du Midi, puisque pour vous amuser, quand je faisais de la sociologie, je m'appelle Malika Boudelal, de jeune fille, et on m'incitait fortement à aller travailler sur les femmes maghrébines et ce genre de sujet. Il a fallu que j'explique que je ne connaissais pas ces univers, que je ne parlais pas l'arabe, que je ne le comprenais pas. Mes parents parlaient kabyle entre eux, et surtout, et que donc je ne connaissais pas ce présupposé milieu d'appartenance qui n'était pas le mien. Et du coup, c'est mon professeur, Claude Rivage, qui a proposé parmi les sujets qu'on nous proposait en licence, hein, parce que j'avais commencé en licence, et j'ai découvert cet univers du canal du Midi qui m'a fascinée. Et je l'ai conduit pendant des années, donc j'ai plutôt travaillé sur les mouvements coopératifs et les techniques de biographie, et je suis restée dans l'ethno. Et c'est aussi ce professeur qui m'a fait faire ma formation de conservateur, en partie au musée des Augustins, et en partie à Toulouse, et en partie au musée de la Batellerie de Conflans-Sainte-Honorine avec François Baudouin, qui
Alors,
était longtemps un de mes maîtres.
on était à l'ethnologie et puis vous passez à la conservation de musées. Alors, sociologie versus un peu mathématiques, l'ethnologie, on en est maintenant à la conservation de musées. Alors, quelle est la logique de ce parcours? Peut-être qu'il n'y en a aucune d'ailleurs.
Il y en a une, au coup si, il y en
Ah.
a une. Moi, je travaillais, quand on travaille en anthropologie, c'est un peu dans toutes ces disciplines de l'ethno, de la socio, linguistique et autres, on croise une diversité de sciences et on croise surtout des sociétés en évolution et pour certaines, pas en disparition, mais en fin de cycle. Les années 70, c'était la fin de la société rurale. Une complexité de la société industrielle. Et donc, quand on travaille en ethno, on travaille aussi sur le témoin matériel. Et le tout a été abondamment appuyé, parce que j'ai eu l'immense, immense chance d'être envoyé dans l'enseignement d'Isakiva, qui était quand même un des collaborateurs de Lévi-Strauss, et j'ai suivi l'enseignement d'Isakiva, qui ensuite m'a fait rentrer au ministère de la Culture comme ethnologue régional. C'était mon directeur de thèse, un homme exceptionnel. Et lui travaillait déjà sur l'objet avec pas mal de musées. Donc, c'était aussi les arts et traditions populaires à Paris. Le musée de la batellerie à Conflans, où j'ai fait une partie de mes études et de ma formation de conservateur, c'était aussi le musée des ATP à Paris. Voilà. C'était un milieu où la muséographie, la muséologie croisaient les sciences sociales et les sciences humaines, histoire, anthropo, etc.
Quel est l'objet exact de l'étude d'un ethnologue et quelle différence on fait entre l'ethnologie et l'anthropologie que vous abordez aussi plus tard ?
L'ethnologie est une des disciplines de l'anthropologie. L'anthropologie couvre un champ très, très large de sciences qui peuvent aller, y compris à la médecine, l'anthropologie physique, la linguistique, etc. L'ethnologie, c'est vraiment la science qui est focalisée sur l'étude d'un groupe humain dans ses marqueurs identitaires, donc ce qui fait le groupe, l'habitat, la vie quotidienne, le parler, les modes de représentation, les croyances, etc. L'anthropologie est beaucoup plus large. Et elle englobe, on va dire, c'est le chapeau de plusieurs disciplines. C'est un mot qu'on utilise plus dans les milieux anglo-saxons, où les disciplines sont beaucoup plus croisées que chez nous, où on est très catalogué. Donc, j'utilise, moi, le mot anthropologie quand je veux sortir de ma stricte discipline ou sociologique ou anthropologique et avoir un chapeau qui me permette de respirer. Je mets la muséologie dedans, voilà.
Quand on entend ethnologie, vous avez cité tout à l'heure des précurseurs Lévi-Strauss, on pense à des pays lointains, on pense à des peuplades reculées, peut-être en voie d'extinction, et là vous avez dit je suis ethnologue régional, alors comment?
Oui, c'est ça.
Qu'est-ce que l'ethnologie régionale, régionale au sens français, j'imagine?
Oui.
Donc les Indiens Jivaro, par exemple, c'est pas votre truc?
J'aurais pu, mais c'était aussi, c'est des modes, hein, vous savez, c'est le changement de l'histoire, c'est les études postcoloniales. On est sorti du rapport au lointain, on est sorti d'un certain exotisme, on est sorti de certains rapports avec des contrées qui ont été des colonies, pas forcément françaises d'ailleurs, hein. Et il y a une tendance à... Je crois que ce qui a été majeur dans le retour à l'ethnologie locale, c'est la fin de la société rurale en France. C'est pour moi la loi d'orientation agricole des années 60. C'est ce grand tournant qui a succédé à la guerre de 14, où on a laminé quand même une grande partie des campagnes françaises, une restructuration dans la réorganisation du territoire, type d'attaque, je veux dire, et la fin d'une certaine civilisation agricole et rurale, la société industrielle qui tout sautait déjà un peu, hein, 74, crise pétrolière, donc on sait, je crois que un certain nombre de gens dont j'ai pu faire partie un moment se sont intéressés à des fins de société. Et donc, il y avait une espèce d'urgence où finalement on se disait, j'ai des collègues qui sont partis très loin, dans le bout du monde, hein, travailler. Et si on regardait près de chez nous ce qui se passe aussi. Conscient, pas conscient, je veux dire, c'était quand même ce qui a marqué mes années, moi, d'études et après de travail dans les années 80-90. Et si j'ai travaillé sur le canal du Midi, c'est parce que c'était la fin du canal du Midi dans les années 80, donc c'était la fin de l'ancien système. Voilà.
Vous avez été ethnologue régional à la DRAC, donc la direction régionale
des affaires culturelles.
Des affaires culturelles, voilà, je cherchais le A, des affaires culturelles, et donc vous étiez basé à Toulouse.
Oui.
Alors,
je travaillais à la fois, on était certains, aujourd'hui on appelle ça les conseillers, à l'époque ça n'existait pas pour mes domaines, donc moi j'étais ethnologue régionale, à savoir que je travaillais à la fois pour le ministère de la Culture et le conseil régional de Midi-Pyrénées. J'étais à cheval entre les deux, et avec des missions qui concernaient effectivement Midi-Pyrénées, notamment muséographique.
Et le Basacle, vous êtes intéressé, vous étiez de proche du Basacle à l'époque.
Le Balzac, j'ai fait un passage assez court qui ne s'est pas très bien fini. Je travaillais pour la Fondation EDF à programmer ce lieu, mais ça s'est conclu assez rapidement. Voilà.
C'est un lieu qui manque un peu de vigueur culturelle, non? C'est un espace, mais à
Je
part ça.
préfère ne pas en parler.
Bon, alors, vite.
C'est à la fois un très beau souvenir et un très mauvais souvenir. Et puis, ça n'a pas duré longtemps. Voilà.
Alors, glissons là-dessus. La
Glissons.
muséographie pour vous, puisque vous êtes conservatrice de musée, ça consiste en quoi?
Alors, j'ai fait une formation de conservateur de musée, mais je ne travaille pas dans un musée. Comme les gens me posent souvent la question, je renvoie, demandez-vous pourquoi, je n'en sais rien. Je n'ai jamais pu travailler dans un musée. Donc,
Mais
lorsque j'ai...
parce que vous ne le souhaitiez pas ou parce que l'opportunité ne s'est pas présentée?
Je ne sais pas. Je ne réponds pas à ce genre de questions parce que je n'ai pas la réponse. J'ai essayé, mais visiblement, ça ne s'est pas fait. Voilà. Ça fait partie des mystères. Alors, si je veux être un peu un petit brin de provocation, allez, mais qui n'en est pas vraiment, j'ai donc fait cette formation en 80-82. J'ai quitté la DRAC en 90. Et si vous trouviez à l'époque, je vais dire dans les années 90, un conservateur de musée avec un nom de consonance étrangère, quelle qu'il soit son origine, je pense que je prends le pari et je risque de gagner. Je crois
Avec...
qu'il y avait un climat, une habitude qui n'a pas beaucoup évolué, hein.
Ça veut dire que
Autant
c'est
sur les grands
le...
musées d'art. On fait appel à des grands ou des conservateurs ou des curateurs, donc des commissaires d'exposition ou des chargés de mission, autant dans le musée d'histoire, d'anthropologie. Voilà, moi, c'est comme ça rejoint le sujet, pourquoi tu veux pas travailler sur les femmes maghrébines? C'était un peu ça. Je ne fais pas de cynisme ni de misérabilisme, j'analyse hein, froidement la situation. Dans les années 90, ça a changé un petit peu aujourd'hui et encore. On ne trouve pas en France de responsables de structures muséographiques qui ont des noms étrangers.
C'est un peu inquiétant. Ça veut dire que le ministère de la Culture, normalement la culture c'est quelque chose d'universel et d'ouvert, ne le serait pas tant que ça.
Ce sont les collectivités hein, qui recrutent, ce n'est pas le ministère. Le ministère ne recrute que dans les musées nationaux, ils sont très peu nombreux. Là, je pense qu'il y a un peu de tout, et puis ce sont souvent des musées d'art, il y a plus d'ouverture dans les musées d'art. Hein. Les autres musées, ce sont des musées de collectivités, donc c'est des communes ou des communautés de communes ou des métropoles d'agglos qui recrutent. Je pense qu'il n'y a pas eu cette habitude, puis il n'y avait pas beaucoup, il n'y avait pas beaucoup d'étudiants, il n'y avait pas beaucoup de jeunes qui ont fait ces formations-là. C'est un fait social, hein. Il ne faut pas faire du racisme ou de l'antiracisme primaire. Je crois que la société n'était pas prête. Aujourd'hui, je n'ai pas regardé, parce qu'en France, en plus, on ne fait pas de stat ethnique, on n'est pas censé regarder le nom des gens, mais voilà, je me suis intéressée à un moment et comme plusieurs personnes... m'ont demandé pourquoi je n'aimais pas les musées et que je ne voulais pas aller travailler dans un musée. J'ai dit que j'avais fait des dizaines et des dizaines de candidatures, mais qu'on ne m'a jamais prise. En général, on ne m'a pas répondu. Ce n'est pas très grave. Alors, j'ai créé mon métier. Ce n'est
Alors, on
pas
y
très dur.
viendra après la
Voilà.
première pause musicale. Et la première pause musicale, c'est vous qui l'avez choisie. Qu'est-ce que vous nous proposez d'entendre?
Alors, je vous ai proposé de partager ce plaisir des oreilles en écoutant Luz Casal, qui est une chanteuse espagnole que j'aime infiniment, qui chante aussi en français d'ailleurs, mais j'ai choisi ce titre-là, Gracias a la vida.
Nous l'écoutons.
Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio dos luceros, que cuando los abro, perfecto distingo lo negro del blanco y en el alto cielo su fondo estrellado. y a las multitudes el hombre que yo amo. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el sonido y el abecedario, con él las palabras que pienso y declaro, madre, amigo, hermano y luz alumbrando la ruta del alma del que estoy amando. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la marcha de mis pies cansados, con ellos anduve ciudades y charcos, playas y desiertos, montañas y llanos, y la casa tuya, tu calle y tu patio. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio el corazón que agita su marco cuando miro el fruto del cerebro humano, cuando miro el bueno tan lejos del malo, cuando miro al fondo de tus ojos, claro. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la risa y me ha dado el llanto, así yo distingo dicha de quebranto, los dos materiales que forman mi canto y el canto de ustedes, que es mi propio canto, y el canto de todos, que es el mismo canto. Gracias a la vida.
Voilà la très belle voix de Luz Casal, le choix de notre invitée Malika Borde-Boudelal, notre sociologue, ethnologue, conservatrice de musée, et qui, après avoir quitté le service de l'État et de la DRAC et du ministère de la Culture, a imaginé, a créé son propre métier, son propre job. Alors, quel est-il exactement, Malika Borde?
Alors, mon métier, je l'ai intitulé ethno-muséographe. Je n'étais pas la première en France, mais on va dire que je fais partie des cinq premiers en France. Je pense à Jean-Pierre Laurent, qui était conservateur au musée de Grenoble, qui lui est devenu après muséographe. Il y a un ami qui s'appelle Guy Brun, qui est dans le Cantal, qui s'est intitulé aussi muséographe. Et en fait, c'était appliqué. Le travail, pas tout à fait du conservateur, puisqu'on ne remplace pas un conservateur qui travaille sur ses propres collections toute l'année, mais on travaille soit pour formaliser, accompagner des créations de musées, des créations muséographiques, parce que la muséographie va au-delà d'un musée. C'était le moment où on naissait dans les années 90, ce qu'on appelle aujourd'hui les centres d'interprétation, qui sont devenus un peu monnaie courante. Donc, nous étions... des professionnels de la muséographie, c'est-à-dire qu'on créait des musées, des musées-expositions, on va dire comme ça, publics et privés. Moi, j'ai commencé par des musées privés. Et ethno, parce que c'est quand même la dominante ethnologique que je voulais mettre au service de la technique muséographique. Et donc, je suis partie de la DRAC avec, on va dire, un joli carnet d'adresses de la région, qui m'a été utile, puisque beaucoup de collectivités avec lesquelles j'avais travaillé, puis aussi des partenaires, des gens que j'ai rencontrés dans mes activités pendant 10 ans, ont fait appel à moi en acceptant de payer un prestataire privé, et beaucoup m'ont trouvé très courageuse. Et donc, on fait appel à moi. En gros, moi, je n'ai jamais manqué de travail. Même aujourd'hui, je n'en manque toujours pas. Ça fait quand même 30 ans que j'ai créé ma boîte. Et donc, j'ai travaillé soit pour… J'ai fait des musées privés, comme le célèbre musée du Béret, hein, qui appartient aujourd'hui à l'Oler, que tout le monde connaît, dans des domaines très divers. Et puis, j'ai… surtout accompagner ce que j'appelle les porteurs de projets, les collectivités souvent, qui voulaient faire un musée ou un écomusée ou un centre d'interprétation. Donc ça, c'est ce que j'ai fait quasiment une très grande partie de ma vie professionnelle, c'est-à-dire plus de 30 ans.
Donc votre voilà, interlocuteur, globalement, c'est la collectivité locale, en grande partie, c'est ça?
Oui, tout à fait. Moi, je travaille à 99% pour le public depuis longtemps. Même si j'accompagne des porteurs de projets privés à travers d'autres institutions, c'est quand même avec de l'argent public. Et aujourd'hui, je travaille à peu près uniquement pour des collectivités en répondant à des appels d'offres. À plus de 75% de mes activités, et il en reste un petit peu en commande directe, mais surtout en répondant à des appels d'offres.
Alors vous avez dit, c'est rassurant, je n'ai jamais manqué de travail. Ça veut dire que la culture, même régionale, même aux mains des collectivités locales, a encore droit de citer de belles heures devant elle.
Oui. Moi, je suis assez, j'ai une vision assez positive de, je veux dire, mes 30 dernières années, hein, même un petit peu avant, mais disons 30 ans en profession libérale. La difficulté dans la perception de la culture vient de notre, je dirais, nos références. Quand on parle culture, on pense aux grandes villes, on pense à un certain nombre de pratiques dans tous les domaines, musique, théâtre, etc. Moi, je ne travaille qu'en milieu rural, et je rajouterai et montagnard, c'est un choix. Donc, je n'ai quasiment jamais travaillé dans des grandes villes. J'ai fait une ou deux expériences sur Toulouse avec la maison Nougaro et je ne me rappelle même plus si la maison Giscard, la céramique, deux projets qui n'ont pas abouti d'ailleurs. Si Cécile Nougaro l'a fait, mais toute seule, de ses petites mains. Et sinon, je travaille pour des petites communes, petites communautés de communes, parcs naturels régionaux, associations. Il y a une effervescence culturelle en France que l'on ignore absolument. Ça, c'est les effets d'un centralisme très ringard, que moi je trouve très ringard, puisque la créativité, elle n'est pas dans les grandes villes, elle est ailleurs. Là, j'ai accompagné un tiers-lieu l'année dernière, les tiers-lieux, un vrai, avec une collègue, lotoise d'ailleurs, et nous, on travaille beaucoup en milieu rural.
Tiers-lieu.
Il y a une énergie culturelle, oui.
Tiers-lieu, traduction.
C'est un de ces nouveaux lieux créés par des habitants qui veulent y pratiquer en convivialité toute une série d'activités, essentiellement culturelles, mais aussi sociales, éducatives, culinaires, enfin, une vie en collectif, je dirais, centrée quand même autour de la culture.
On trouve encore de l'argent pour la culture. Moi, je vois beaucoup d'acteurs culturels passer une grande partie de leur temps et de leur énergie à chercher des sous.
Alors, c'est un sujet aussi compliqué que j'aborde avec beaucoup de prudence. Ces dernières années, les modes de financement de la culture ont beaucoup changé. En ce qui me concerne, et les projets que j'accompagne, qui sont souvent des projets avec de l'investissement au bout, hein, des musées, on crée des lieux, mais aussi on recrute du personnel pour faire fonctionner ces lieux. Moi, j'ai créé beaucoup d'emplois dans ma vie. Et je continue, j'espère en créer encore cette année et l'année prochaine. Ce qu'on a mal perçu ou pas bien perçu, c'est le changement institutionnel. À savoir que ce n'est pas tout à fait le ministère de la Culture qui fait la culture. Tout le monde a accès aux statistiques, c'est sur Internet. Ce sont les collectivités qui payent la culture en très grande majorité. On ne devrait même plus parler du ministère de la Culture. Je dis ça, ce n'est pas très gentil ce que je dis, mais ça ne fait rien. Il ne sert à rien, à part les aspects juridiques et réglementaires qui nous sont indispensables hein, pour faire pays commun, on va dire, avec la loi sur les musées, les monuments historiques et les archives. En gros, c'est les trois domaines que gère la culture. Le domaine du spectacle vivant, ce n'est pas le ministère qui s'en occupe. Et malheureusement, le citoyen de base en France ignore tout ça. On en est, on fonctionne avec une idéologie et une vision centraliste totalement dépassée, dans laquelle on ignore que c'est l'Europe qui finance la quasi-totalité de nos projets. C'est-à-dire la difficulté pour les acteurs culturels, mais qui n'est pas celle des miens, puisque je fais aussi ce boulot-là, c'est de monter des projets qui répondent à des appels à projets ou que l'on propose à des institutions qui fournissent de l'argent et parfois des sommes extrêmement importantes, ce qu'on appelle des crédits européens. Mais le crédit européen suppose une logique de fonctionnement que moi, je rencontre assez facilement sur les projets d'investissement, hein, quand on fabrique un musée ou on le rénove, par exemple. Pour un artiste, ce n'est pas tout à fait la même chose. Mais il n'empêche qu'il y a de l'argent, bien sûr, pour la culture, mais aujourd'hui, il y a un gros malaise en France. Bon, moi, j'ai beaucoup analysé, je lis, je compare. Il y a à la fois trop de culture et pas assez de culture. Voilà. Donc on n'a pas fait cette transition d'une véritable décentralisation assumée et connue de tous. Et puis, je me rappelle de ce que m'a dit une commissaire européenne qui contrôlait une de mes réalisations avec ma cliente dans l'Hérault. Elle disait, les Français, beaucoup n'aiment pas les crédits européens parce qu'il faut justifier de l'utilisation jusqu'au ticket de caisse. Et beaucoup d'acteurs, alors je ne parle pas que des élus, les élus, beaucoup ne savent même pas qu'il faut aller chercher de l'argent à l'Europe, les petits en particulier. Pour les grandes villes, c'est différent. Mais il y a une obligation de justification de l'utilisation de ces crédits qui est très lourde. Et c'est vrai que ce n'est pas trop dans les mentalités françaises de justifier de chaque usage d'un centime. Bon, moi, je le fais parce que je travaille plus en investissement, en fait. Et je suis souvent payé avec des crédits européens, pour ne pas dire toujours.
Quand on travaille pour la collectivité locale, donc on a affaire à des élus, est-ce qu'en matière culturelle, une espèce de consensus politique, ou alors en fonction de la couleur de l'élu, si couleur il y a, puisqu'on sait que vous parliez des campagnes, des montagnes, bon, on est plus dans la gestion quotidienne que dans la politique, mais est-ce que vous ressentez, vous, des choix politiques dans la culture ?
En milieu rural, c'est plus nuancé qu'en ville, hein. On n'est pas dans des logiques de parti la plupart du temps. Moi, je rappelle quand même qu'un élu n'a pas à être spécialiste de la culture. Un élu, il peut être paysan, artisan, boulanger. C'est le principe de la démocratie. Donc, je ne demande jamais à un élu d'avoir ne serait-ce qu'un... Il peut avoir un avis personnel sur la culture. Mais moi, les élus avec qui je travaille, ils me payent pour que j'amène la culture sur le projet. Je suis payée pour ça, moi et d'autres, hein, parce que c'est rare que je travaille seule. Quand je dis que je ne manque pas de travail, oui, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'élus qui font de la culture sans le savoir. Des fois, ils font du tourisme. Ils disent qu'ils font du tourisme, en fait. Ils font de la culture. Il y en a d'autres qui font de l'aménagement local, mais ils font de la culture. Il y en a qui font des parcs naturels régionaux, mais ils font de la culture. Donc, la culture, aujourd'hui, elle est beaucoup plus diffuse. On n'a pas, moi, je ne travaille pas dans le cadre de politique culturelle, du tout. Moi, je travaille sur des politiques d'aménagement et surtout des politiques de développement local. Donc, je ne travaille pas dans le domaine culturel parce que j'aurais fermé depuis longtemps. Moi, j'ai travaillé, par exemple, je bénéficie de crédits de l'agriculture puisque je travaille en milieu rural, par exemple, pour dynamiser une commune ou accompagner une activité autour de l'alimentation parce que c'est un des thèmes que j'ai beaucoup, beaucoup travaillé. Donc, la culture pour moi, je parle pour moi, hein, je ne parle pas des artistes, là, il faut faire attention. Moi, je n'ai aucun problème avec les élus, puisque par principe, quand j'interviens, c'est qu'il y a eu un appel d'offres et que l'élu, la collectivité, a trouvé l'argent avant de lancer un appel d'offres et me recruter, moi et mes collègues, et parfois c'est des architectes, parfois c'est des consultants de tourisme, etc. C'est qu'ils ont fait le choix de ce développement-là. Donc moi, je suis extrêmement satisfaite et je regrette cette absence totale d'objectivité. On a un regard très ringard qui est celui du ministère de la Culture post-Malraux. Ce n'est pas ça la France, hein. La France est autre chose. Oui, les élus s'intéressent à la culture, bien évidemment. C'est plus compliqué pour l'art. Encore que, moi je fais aussi travailler des artistes, on crée aussi des équipements où des artistes interviennent. Moi j'appelle de mes voeux à une évolution très sérieuse de la France et du regard qu'on a sur la culture. Moi je ne travaille pas avec le ministère de la Culture. Même si je travaille dans les musées, j'applique la loi sur les musées, je suis très rigoureuse. Parfois je travaille avec des conseillers au musée, mais c'est rarement eux qui amènent l'argent. Ils sont des moteurs indispensables, ce sont des gens de savoir, des techniciens très, généralement très compétents. Ils amènent une technicité, un avis sur le dossier qui est au-delà du mien. Ils peuvent donner un avis aussi sur des montages budgétaires, bien évidemment, mais l'argent ne vient pas de l'État. Il faut arrêter de croire à ça. Et finalement, quand je parlais tout à l'heure de mon plaisir de travailler en milieu rural et montagnard, moi, mes élus, ils connaissent tout ça, ils savent tout ça par cœur. Ils n'ont rien à faire de la DRAC ou du ministère de la Culture, ce n'est pas leur problème. Ils préfèrent être bien avec le sous-préfet.
Vous avez une conception très large de la culture. Vous parliez de l'alimentation, vous la mettez dans le rayon culture aussi.
Ah, c'est demander ça à Jacques Lang. Oui, bien sûr que l'alimentation et la cuisine, je ne parle pas de la grande gastronomie, en tant qu'ethnologue, c'est le fondement de la culture. L'être humain qui ne mange pas, il ne vit pas. Donc, il n'y aurait pas de reproduction sociale sans manger. Et aujourd'hui, tous les débats qu'on a sur les jardins, l'urbanisme, la gestion de l'eau, l'éducation des enfants, le rapport à la maladie, etc., tout tourne autour de l'alimentaire. Donc, c'est un des fondamentaux de notre société. Je travaille beaucoup, beaucoup sur ces sujets-là depuis très longtemps.
Est-ce que vous avez le sentiment que nos concitoyens, et donc les élus qui les représentent, s'intéressent beaucoup au passé, au terroir, aux valeurs ancestrales ?
Pas plus que ça. Il y a une mode, hein, il y a une mode, je vous le disais tout à l'heure, dans les années 80-90, avec des risques, hein, qu'on connaît aujourd'hui quand on parle de terroir. J'ai souvent ramené quelques méchants textes de notre maréchal bien-aimé, bien détesté, à des réunions en disant « Hey, on n'est pas en 41 les amis, on est en 80-90 ». Quand on travaille sur un projet de développement, les gens aujourd'hui, ils ont besoin, on le voit dans la crise que nous traversons, ils ont besoin d'avenir. Tout être humain a besoin de perspectives. Donc moi, j'inscris mes projets dans des perspectives de développement, mais la perspective de développement suppose qu'on s'adosse non seulement à l'histoire, mais à chez soi. Et le chez soi, c'est ce qu'on partage. Pourquoi les gens sont partis aussi nombreux à la campagne et à la montagne cet été? Pourquoi? Ils sont bien allés chercher quelque chose. Ce n'est pas de la nostalgie comme ça, c'est inconscient. On a besoin de retrouver ses racines, qu'elles soient locales ou lointaines, ça n'a pas d'importance. Moi, quand on me demande ce que je suis, je dis que je suis provençale, profondément provençale, parce que j'y suis née, parce que j'ai grandi là-bas, etc. etc. Donc, les élus s'intéressent à l'histoire et au passé, bien sûr, hein, puisque je travaille dans les musées, je ne vais pas dire le contraire. Souvent, ils ne connaissent pas assez bien leur histoire, mais ça vient aussi du centralisme qui a fait de gros dégâts à travers soit les monuments historiques, soit la méconnaissance de l'histoire des élus locaux, quels qu'ils soient, hein, parce que longtemps, c'est les DRAC et les ABF qui ont décidé de tout. Et je pense qu'aujourd'hui, là, on est plus des citoyens européens.
Malika Bordeaux, je vous propose de faire une deuxième pause. Elle sera bien sûr musicale et c'est moi qui l'ai choisie. On est en hiver, alors j'ai pensé à Henri Salvador et son jardin d'hiver.
Délicieux.
Que j'aime beaucoup. Moi Henri aussi. Salvador.
Je voudrais du soleil vert, des dentelles et des théières, des photos de bord de mer. Dans mon jardin d'hiver, je voudrais de la lumière, comme en Nouvelle-Angleterre. Je veux changer d'atmosphère dans mon jardin d'hiver. la robe à fleurs sous la pluie de novembre. Mes mains qui courent, je n'en peux plus de t'attendre. Les années passent, qu'il est loin l'âge tendre. Nul ne peut nous entendre. Je voudrais du Fred Astaire, revoir un latte coeur. Je voudrais toujours te plaire dans mon jardin d'hiver. Je veux déjeuner par terre comme au long des golfes clairs, embrasser les yeux ouverts dans mon jardin d'hiver. Ta robe à fleurs sous la pluie de novembre, mes mains qui courent, je n'en peux plus de t'attendre. Les années passent, qu'il est loin l'âge tendre, nul ne peut nous entendre. Dans mon jardin d'hiver.
Voilà, jardin d'hiver, un hiver qui est certainement terminé pour ce qui est de notre pays, si j'en crois le temps qui s'améliore grandement, un hiver que nous n'avons pas véritablement eu, puisqu'on n'a pas eu froid cet hiver. Je ne sais pas à Hendaye où vous résidez, mais pour ce qui est l'Occitanie, véritablement, on n'a pas sorti les doudounes. Alors, j'ai une question pour clore un peu ce chapitre, une question que j'aimerais vous poser qui n'a rien à voir avec ce qu'on vient de dire, mais que j'aimerais poser à l'anthropologue et à la conservatrice de musée. Quel est votre avis sur quelque chose qui est âprement discuté depuis plusieurs années, sur la restitution des œuvres, puisque nos musées sont bourrés d'œuvres d'art que nous sommes allés, allez, comment je vais le dire, récupérer, piller dans différents pays qui aimeraient bien récupérer leur histoire, leur tradition, parfois leur âme pour certains. Quelle est votre position de professionnel sur cette question ?
Moi, j'ai une position très claire. De manière générale et inconditionnelle, je suis contre le révisionnisme. Tous les révisionnismes. Donc, on ne refait pas l'histoire. Si ces objets sont chez nous, c'est que notre histoire les a amenés ici, comme d'autres nous ont pris des objets aussi. Hein, mais on pourrait aussi, nous, la France, réclamer un certain nombre d'objets. Donc, tous les objets, je vais quand même parler d'une petite exception. Nos musées, et je sais que quand je travaille sur un musée, je suis en train de le faire en ce moment, je prends beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps pour retrouver l'histoire du musée, comment ils sont constitués. Donc, en général, c'est fin 19e. Ou certains au début du 19e, les musées sont une production sociale. Et quand on dit social, c'est socio-historique, socio-politique, tout ce qu'on voudra. Donc on ne touche pas le musée, même si c'est la notion d'inaliénabilité peut rebuter certains, c'est un moyen de rattacher, d'assurer l'histoire. Donc le bon, le mauvais, on prend, c'est notre histoire. Maintenant, cette histoire-là, je pense qu'il faut aussi la restituer au pays d'où viennent ces objets. Et là, parfois, la France est un peu en avance. En tout cas, il fait meilleur vivre ici qu'ailleurs. Moi, je suis pour que ces objets soient en face des facsimilés ou des films, et qu'on raconte pourquoi ces histoires, s'ils viennent de X pays d'Afrique ou d'Asie, qu'on raconte pourquoi ils sont arrivés en France. Et qu'à ces pays-là, on restitue la connaissance de cette histoire-là.
Parce que vous avez dit, c'est notre histoire qui les a amenés chez nous. Je suis d'accord, c'est notre histoire, mais ce n'est pas ceux des peuples à qui on les a, auprès de qui on les a subtilisés, entre guillemets.
Si, ça fait partie de leur histoire. La colonisation fait partie de leur histoire. Le pillage à la André Malraux, elle fait partie de l'histoire. Donc, c'est juste que tous les pays du monde n'ont pas le même rapport à l'histoire et à l'éducation de l'histoire et à l'enseignement. Donc, je parle pour la France, je ne peux pas juger, je ne suis pas spécialiste, mais bien sûr que je réfléchis au sujet. Je pense que ces objets n'ont pas à bouger de chez nous. Comme je suis contre la destruction des statues, assumons notre histoire, apprenons-la. En revanche, il y a une seule catégorie d'objets qui m'interroge, et les Américains, les Canadiens se sont beaucoup posé cette question-là. Ils ont trouvé des solutions qui ne me semblent pas totalement satisfaisantes. Ce sont les objets symboliques, les objets liés à des croyances, à des identités intimes de groupe. J'ai un rêve, c'est tout. J'ai un rêve, c'est que les deux pays, les spécialistes des deux pays, puissent s'entendre. Qu'éventuellement, comme dans les trésors des églises, on peut, le temps d'une procession, sortir des objets et après aller ranger et les remettre à leur place. Ce ne sont pas des objets de musée, c'est des objets de trésors. Donc peut-être faudrait-il mener une réflexion très sereine avec des années de retard, avec des pays qui sont déjà en capacité de mener avec nous ce dialogue. Moi, je n'ai pas envie qu'on redonne des objets au prétexte que ça ne veut pas dire que ces pays-là ne sont pas capables de les concerner. Hein. Moi, je ne veux absolument pas dire ça. Mais je pense que c'est renier notre histoire et que le pays qui a été pillé ou spolié renierait aussi son histoire. Et quand on rentre dans ces processus-là, je trouve ça extrêmement dangereux. Donc, gardons nos objets, mais ouvrons le débat.
Bien.
Le vrai.
Alors, quand on est à Hendaye et qu'on est ethnologue, muséographe, mais que l'on n'est pas plongé dans la création d'un musée, dans l'assistance à une collectivité locale, qu'est-ce qu'on fait ?
Je marche.
On marche. Mmh. Vous marchez, vous nagez, mais vous nagez en mer ? Non.
Oui.
Ah.
Oui, de préférence. Je n'ai pas de piscine en Daï, on a une chouette à Saint-Jean-de-Luz. Je marche beaucoup, 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 beaucoup. Bon, là, je suis un peu malheureuse parce que je ne peux pas aller chez mes voisins d'en face, à quelques centaines de mètres, puisque j'habite à la frontière, à côté du pont international. Et voilà, j'ai en temps normal, quand je suis là, hein, parce que je ne suis pas toujours là, je suis sur mes terrains de mission, quand je suis là, j'aime bien, en fin de journée, aller marcher pendant au moins une heure et demie, deux heures. Et très régulièrement, je fais mes 10 km, à la fois pour le plaisir, parce que j'ai la chance d'habiter près d'une des plus belles plages de France et qu'elle est à 4 km de chez moi. Donc, elle est venue, ça fait bien. Voilà, je marche beaucoup, je lis. J'ai un travail qui exige de moi d'importantes lectures. Donc, c'est vrai que je lis beaucoup pour le boulot et un peu pour le plaisir quand même. Et puis voilà, on écoute la musique et on médite.
L'œuvre d'art qui vous a le plus séduit, question traditionnelle dans mes interviews, vous m'avez dit la Sainte Victoire de Cézanne. Pourquoi oui. Ce choix ?
Parce qu'il y a mon paysage d'enfance, c'est mes paysages d'enfance, il y a le fameux viaduc qui est représenté sur le tableau et qui était notre terrain de jeu avec mes frères et des petits voisins, où on allait se faire peur en regardant les chauves-souris qui nichaient dessous. Et le train passait dessus, c'est le viaduc ferroviaire, et voilà, j'habitais à quelques centaines de mètres de ce viaduc, et chaque fois que j'arrive, ça m'est arrivé il y a quelques semaines, que j'arrive, que j'aperçois la Sainte Victoire, d'abord en vrai, mais aussi, et puis Cézanne, je vous l'ai dit, je voulais faire les Beaux-Arts, donc je crois qu'il y est très jeune, nous allions sur la Sainte Victoire avec notre prof de dessin, voilà, je l'ai beaucoup dessiné moi-même. C'est mon paysage, c'est le paysage que j'emporte avec moi en fait. C'est mon enfance aussi, c'est les jeux, c'est mon papa nous y a amené marcher aussi. C'est là que j'ai découvert après les œufs de dinosaures qui étaient au fameux muséum d'Aix. C'est aussi un territoire d'apprentissage et le souvenir de mon père.
Une Provençale à Hendaye, c'est particulier.
C'est ça.
Un moment, une journée particulière qui vous ont marqué. Vous m'avez fait état de de l'école primaire, une fin d'année scolaire en 67 dans une classe de CM2. Qu'est-ce qui s'est passé?
Alors, c'est comme l'histoire de mon métier de conservateur. Il s'est passé que j'étais une petite fille heureuse et joyeuse, je le dis, même s'il y avait des temps difficiles. Hein. Moi, je suis née pendant la guerre d'Algérie et ça a traîné un peu. Il y a une mémoire du traumatisme qui était celui de ma famille et qui m'a été transmis, bien évidemment, que j'ai vécu, il ne faut pas l'oublier, parce que j'ai 65 ans aujourd'hui. Donc,
bon anniversaire, alors.
Non, ce n'est pas aujourd'hui, c'est à mon dernier. Mais je le prends. Merci pour vos vœux.
Prenez-le, nous souffrirons les bougies le moment venu.
J'étais en plus une très, très, très bonne élève, mais je ne le faisais pas exprès. J'étais très bonne élève et donc j'étais toujours première de la classe. Et puis vers la fin de l'année, l'institutrice me dit qu'elle m'a mis deuxième parce qu'il fallait faire plaisir à une autre fille et que ce n'était pas possible. Ce n'était pas possible qu'une petite comme moi soit toujours première. Et ce qu'elle m'a dit, la façon dont elle m'a dit, cette injustice, je ne peux pas dire que j'en avais vécu jusque-là, hein. En tout cas d'une telle violence, je l'ai retrouvée l'année d'après, les années d'après, surtout dans le collège et plus tard au lycée, parce que mon histoire, elle croisait l'histoire de France. Hein, c'est aussi bête que ça. En tout cas, j'ai découvert ce jour-là, ou en tout cas, je l'ai entendu à partir de ce moment-là. J'y étais sensible, j'ai découvert le racisme, que je ne connaissais pas et que je n'ai pas forcément vécu au quotidien toute ma vie, je ne vais pas mentir, je ne peux pas dire que j'ai vraiment beaucoup souffert. Je l'ai rencontré, plus en défendant des personnes qui en souffraient, je l'ai rencontré comme ça, sur des phrases, des mots, des temps, d'une enseignante qui m'a rappelé que son mari avait été tué pendant la guerre d'Algérie, qu'elle me le ferait payer. Pendant une professeure qui ne supportait pas, qui avait dit à mon père, allant la voir et demandant des comptes, qu'une petite arabe ne pouvait pas être la première en latin. C'était ces joyeuses années où on était très peu nombreux et nombreuses, avec mes frères et sœurs et quelques autres, à rentrer dans un certain niveau d'éducation. Aujourd'hui, c'est quand même, Dieu merci, tout ça est bien loin maintenant, ça fait 50 ans. Je sais qu'il y a d'autres difficultés, je ne dis pas que la vie est rose, mais pour moi, ça a été quelque chose s'est effondré, d'une innocence. Je vivais chez les bisounours et puis je suis arrivée chez les humains et j'avais 7 ans ou 8 ans, je ne me rappelle plus.
Quand on lit ce que je suis en train de faire, le livre est gros, donc il va me prendre un peu de temps parce que j'en lis plusieurs à la fois. Quand on lit les mémoires de Barack Obama, on se rend compte que par contre, aux États-Unis, tout ça est plus qu'actuel. Malheureusement. Est-ce qu'il y a dans votre vie quelqu'un que vous avez croisé qui vous a permis de devenir ce que vous êtes, qui vous a, entre guillemets, bien sûr, qui vous a fait?
Oui, moi, je pense à Isaac Kiva, qui était plus qu'un professeur. C'est quelqu'un qui m'a ouvert je crois qu'il avait une conscience aiguë de l'altérité, de la différence, de par son nom, de par ses origines, de par ce que sa famille a vécu. J'ai trouvé un écho qui n'avait pas besoin de mots. C'est quelqu'un qui m'a encouragée. C'est lui qui m'a fait rentrer à la mission du patrimoine ethno au ministère, qui m'a montré une voie. Et j'avoue que je pense très, très souvent à lui. Et pas seulement parce que je travaille. Il est décédé il y a quelques années. C'est quelqu'un qui m'a marqué et surtout des choses que je portais en moi, comme l'aventure que je vous racontais avant. Je crois qu'il m'a permis de les poser, ces choses un peu négatives, en me disant, je crois que c'est un homme qui a beaucoup souffert aussi, mais qui a fait un beau parcours. Et donc, il m'a beaucoup marqué. Il est surtout très présent dans ma vie. Et c'est un homme, voilà. C'est un monsieur pour qui j'avais une très, très grande admiration et affection.
Eh bien, grâce à vous, rendu. Vous nous avez dit tout à l'heure, je lis beaucoup, donc nous en arrivons à la séquence littéraire. Quel est le livre dont vous avez souhaité nous parler, Simone de Beauvoir, je crois?
Oui. Je ne vais pas dire que c'est le livre que je préfère dans ma vie. Il y en a d'autres, puis il y en a beaucoup. Mais Simone de Beauvoir, Dans mon parcours de petite collégienne aixoise, j'allais souvent à la bibliothèque. Et un jour, je ne me rappelle pas très, très bien quel âge j'avais, je pense que j'avais 12 ou 13 ans. J'ai découvert, je connaissais le nom, est-ce que je l'ai entendu, est-ce que des aînés, des gens plus âgés comme moi en avaient parlé. Je découvre le livre, j'étais avec ma meilleure amie, Mémoire d'une jeune fille rangée. Donc je me suis dit, oh, ça doit être un joli roman à l'eau de rose. Pas à l'eau de rose, je n'aimais pas ça, mais je voyais le côté un peu une jeune fille rangée. Voilà, je devais avoir cette image en tête. Et donc j'ai lu ce livre avec beaucoup de bonheur et de délices. Et j'ai découvert un monde. Je ne suis pas sûre, je l'ai relu bien sûr au moins deux fois après, mais j'ai découvert la trajectoire d'une jeune femme. Voilà. Qui ouvrait des portes, qui avait des souffrances, qui était à l'opposé de mon univers, mais qui posait des choses dans lesquelles je pouvais me reconnaître. Et puis, ce livre, je me rappelle, la bibliothécaire n'était pas trop... Elle était un peu sceptique sur le fait que je le prenne, parce qu'elle devait se dire Simone de Beauvoir, mais bon, je lisais beaucoup, elle me connaissait. Elle savait que je ne risquais rien à lire La mémoire d'une jeune fille rangée et que je risquais de le comprendre. Mais c'est, je dirais, c'est mon premier livre d'adulte. Voilà, c'est pour ça que je m'en rappelle, et je me rappelle d'une jeune femme qui, elle a écrit ce bouquin en 58. Je me disais, elle montre des perspectives, on devine un petit peu ce que va être sa vie d'intellectuelle après, moins sa vie de femme, mais pour laquelle j'ai peu d'admiration. Je ne devrais pas le dire, mais. Je ne suis pas une grande fan de Simone de Beauvoir, et elle a ouvert quand même pour la jeune fille que j'étais quelque chose qui était très cérébral, qui me plaisait assez. On n'était pas dans les sens, on était, même si sa meilleure amie meurt, Zaza, on était dans quelque chose de cérébral. Et je crois que c'est peut-être ça qui m'a séduite à l'époque. Je pense que je devais rêver de devenir philosophe. Je suis aussi des études de philo, mais ça c'est autre chose. Voilà, mais c'était l'intellectuel, je crois, en devenir qui m'avait séduite.
Le côté féministe de Simone de Beauvoir ne vous a pas séduit, vous l'êtes vous-même?
Je l'ai toujours été, mais ce n'est pas ce féminisme-là. C'est une femme qui a une grande partie, notamment lorsque j'ai lu Le lièvre de Patagonie de Lanzmann, même si je savais, j'ai beaucoup lu sur elle. C'est une femme, de par sa vie, pour qui je n'ai... La femme, hein, je parle, hein, la dite féministe, je n'ai pas d'admiration pour elle, non, du tout. J'ai une admiration pour ses travaux intellectuels, ses livres, mais je préfère oublier... certes, j'ai eu Le deuxième sexe comme tout le monde, mais moi, je suis pour un féminisme pratique, du quotidien.
Allez, c'est à mon tour de vous parler d'un livre et de vous en recommander la lecture. Alors, je vais vous parler de quelqu'un, je ne sais pas si vous le connaissez, Malika, c'est René de Pestre.
Bien sûr.
Ah, bon, alors je rappelle quand même, parce que tout le monde ne connaît pas René de Pestre, et qu'il est né en 1926 à Haïti, et qu'il a publié à 19 ans son premier poème, Étincelle, et puis après il va créer une revue qu'il va animer, La Ruche. Notamment à l'occasion de la venue d'André Breton à Port-au-Prince, où il a publié un numéro spécial, mais ça n'a pas plu au dictateur de l'époque, et De Pestre est incarcéré. Donc il va, à sa sortie, jouer un rôle dans l'effervescence populaire qui va chasser ce dictateur, mais un comité exécutif militaire prend le pouvoir, c'est assez classique dans ces régions, et pas qu'elle d'ailleurs, et notre poète part en exil. Alors il va aller en France, il va aller à Cuba, il va revenir à Paris, travailler à l'UNESCO comme attaché, puis au cabinet du directeur général, au secteur de la culture pour des programmes de création artistique et littéraire, et il a pris sa retraite il n'y a pas si longtemps à Lézignan-Corbière, et justement, nous avions démarré notre propos avant de lancer l'émission sur notre ami commun Francis Fourcault. Et bien nous avons un projet d'aller interviewer et filmer René de Pestre dans sa retraite, mais c'est un monsieur très âgé aujourd'hui, et le Covid nous a un peu freinés parce qu'on ne voulait pas lui apporter quelque chose qui pourrait lui être fatal compte tenu de son grand âge. Et donc, René de Pestre a écrit un livre que j'aime beaucoup, Adriana dans tous mes rêves, au moment du carnaval en 1938, où Madame Germaine Villaré-Joyeuse, qui est la marraine du narrateur, va mourir, et en même temps vont être célébrées les noces d'une très jolie jeune femme, Adriana Siloé, qui va donc être conduite à l'église, à l'hôtel, comme on disait, puis qui, au moment où elle dit oui, va s'écrouler, morte aux pieds de l'officiant, mais on est dans un pays vaudou et il n'y a pas de véritable mort qui tienne. Donc, à peine enterrée dans sa belle robe blanche, Adriana va revenir sous l'espèce mystique d'une zombie, etc. Enfin, c'est un livre extrêmement séduisant, joyeux, avec une ambiance qu'on ne connaît pas dans nos pays. Donc, je vous en recommande la lecture. René de Pestre, Adriana dans tous mes rêves. Et vous trouverez ça en folio, c'est abordable, ce n'est pas cher du tout.
Et si vous me le permettez, je rappellerai que j'ai organisé à Toulouse, au Basacle, une très grande expo, immense, sur les peintres haïtiens, dont le commissaire était assuré par mon ami Jean-Marie Drault et l'association, la Fondation Afrique en Création, et nous avions mis, si je me souviens bien, de très beaux textes de Pestre. C'était une très grande aventure et c'est suite à cette aventure que j'ai été licenciée. Voilà.
EDF,
hommage aux peintres haïtiens, voilà, que j'ai beaucoup fréquenté.
EDF et la culture, je ne sais pas si ça va très bien ensemble tout cela. C'était merci longtemps. En tout cas, nous sommes arrivés au terme de cette émission. Malika Borde-Boudelal, merci. On vous aurait écouté encore bien plus longtemps, mais bon, la radio, je le dis souvent, je l'ai appris en travaillant dans ce média, c'est l'école de la frustration, donc il faut savoir mettre un terme, ce qui ne veut pas dire que nous ne nous retrouverons pas un jour tous les deux face à face devant un micro. Ce sera toujours un plaisir comme ça l'a été aujourd'hui. Merci Malika.
Merci Jacques et merci pour tout. Voilà,
on va se faire ensemble. Voilà, c'était Cap Cap, une émission de Jacques Laverne, avec à la technique et au montage de cette émission Yanis Boudin. Vous pourrez retrouver le podcast de cette émission ainsi que ceux de toutes les autres d'ailleurs sur le site de la station Esprit Occitanie ou sur l'application dédiée pour smartphone. Bonne semaine à toutes et à tous. Adieu. Thank you.